5, 4, 3, 2, unité.
L'auberge espagnole sur Divergence FM, vie associative, culture, science, environnement, tout y passe et tous y passent.
Un artiste, qu'on va dire au sens du terme large.
C'est la grosse nouveauté de l'économie sociale, a du sens.
On est loin de l'abrogation totale des gaz de schiste en France.
Moi, trash, ça va être pégueux, je pense.
L'idée, c'est de sortir de l'ordinateur.
Tout le truc que je kiffe.
Jardin sec, pourquoi le faire? Quels sont les coûts?
On reconnaît la langue du cinquième élément.
C'est vraiment un mur de guitare, comme un souffle atomique.
Un public habitué.
C'est ce qu'on appellerait aujourd'hui les entrepreneurs d'identité.
Bah, c'est super, on voit que les motards se mobilisent.
C'est gratuit et on ne voit rien, c'est neutre, donc profitez-en.
L'Auberge espagnole, une émission de la rédaction de Divergence FM, présentée par Gilles Couget.
Tout l'an 2012, ça va se travailler, puis début 2013, on lance ça en France.
Et bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans cette auberge espagnole du mardi 19 février de l'an de grâce 2013. Je sais pas s'il est gracieux, en tout cas, il sera musical puisqu'on démarra avec l'Asso Moria de retour sur les scènes avec une programmation qui attaque ce vendredi. Une interview proposée par Gérard Viol qui a rencontré la guide qui vous accompagnera jeudi dans les dessous de l'Agora, l'Agora de la danse, pardi. Et puis, on parlera des boutographies 2013 qui vont démarrer dans quelques jours. C'est Arnaud Laroche qui sera avec nous, mais pour l'heure, eh bien, un petit peu de musique avec de la musique libre et les Québécois de Mister Valère.
Thank you.
les excellents Mister Valère qu'on entendait avec ce Brandon Marlowe, extrait de leur album d'il y a une paire d'années. C'est de la musique libre et l'Asso Moria nous a habitués à faire des concerts de musique libre ici à Montpellier, mais pas que, puisque dans la programmation qu'on va détailler qui démarre ce vendredi, eh bien, il n'y a pas que de la musique libre. Héloïse, bonjour.
Non, en fait, ça dépend ce qu'on veut dire par libre. Bonjour. Donc, musique libre de diffusion, ça veut pas, c'est pas la même chose forcément que musique libre artistiquement. Oui. Du coup, c'est vrai que c'est assez délicat. Je me dis qu'on ne va pas uniquement organiser des concerts de musique libre, parce qu'il y a carrément des trucs qu'on n'aime pas. Et c'est pas parce que c'est libre qu'on va les faire, qu'on va forcément les programmer. Je pense que c'est vraiment, on y réfléchissait l'autre jour, c'est vraiment la liberté. Voilà, il y a plusieurs dimensions. Et donc, il y a des groupes qui sont super et qui ne sont pas sous licence libre.
Voilà, ou qui sont pas tout court, ou qui savent pas. Hein. Ouais, il y a aussi pas mal de musiciens aussi qui savent pas trop et qui disent ah bah comme on n'est pas à la SACEM, notre musique est libre. Donc.
Ouais, ou ils sont coincés parce qu'il y a souvent aussi des groupes où il y a des mecs qui composent tous ensemble. Il y en a un qui est inscrit à la SACEM. Du moment qu'il y en a un qui est inscrit à la SACEM, de toute façon, il y a déjà quelque chose qui pose problème. Et si un musicien est dans une démarche, on va dire entre guillemets professionnelle de développement du groupe et qui joue dans d'autres formations, c'est ce qui risque souvent d'arriver. Donc on dirait que pour l'instant, ce qui est libre, ça concerne beaucoup, peut-être, des pratiques encore, entre guillemets, amateurs, même si j'aime pas cette opposition professionnelle-amateur.
Ce vendredi 22 février, eh bien, ce sera ICSIS, XIS, on dit ça comme ça ?
Oui, XIS.
Et d'où viennent-ils ?
Ils viennent de Lyon. Moi, je suis complètement subjuguée par ce qui se passe en ce moment à Lyon. Il y a énormément de groupes, en fait, sur place et de moins en moins de lieux pour pouvoir exprimer la musique. Et sur ce qu'on appelle la scène rock, noise, jazz, expérimentale, etc., il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses et beaucoup de choses très bien. Et donc, voilà, donc nous, on connaissait Poil, il y a Schrom, il y avait Pan Pan Pan, il y a énormément d'autres groupes qui viennent de là. Et donc, XIS en fait partie. Et donc, c'est un trio que je connais par le groupe Poil, dont on a entendu des histoires avec les paroles Poil, tronche à cul, etc., par Madame, comment elle s'appelle, Boudry, ou je me semble un truc comme ça, qui est du Front National.
Madame Boudry, oui.
Voilà, je ne sais pas si tu avais suivi un peu ce non. qui s'était passé. En fait, en gros, elle a pris un grand plaisir à prononcer tronche à cul qui glisse, etc., devant toute... l'Assemblée, puis ça fait un petit peu buzz là-bas à Lyon et ailleurs, quoi. D'ailleurs, je vous conseille de chercher Boudry et Poil dans YouTube. Il y a un super montage, une vidéo extraordinaire à pas louper. Donc, XIS, je t'en dis deux mots.
Et c'est un trio.
Oui, c'est un trio. Alors, j'ai pris un petit texte qui est pas trop mal, et puis comme ça, on sait exactement de quoi il s'agit. Alors, enfants de Sonic Youth et Soundgarden, émules de Dear Hoof, Tistis et Ex-Réverie, les membres d'Ixis naviguent entre le grunge de Seattle, la pop de Bristol et un rock-prog noise apatride. Les voix scandent ou susurrent, les mélodies scintillent dans l'obscurité, rien que ça, et les rythmes tumultueux finissent d'ébranler l'auditeur égaré. Donc, trois instruments. Il y a Jessica Martin Maresco qui chante très bien, qui joue de la basse. Il y a donc Guillaume Meyer.
Et des claviers.
Et du clavier, pardon, oui. Il y a Guillaume Meyer qui joue dans You Can Dance et donc dans Poil, qui est batteur, chanteur et entre parenthèses, il fait aussi de la composition de musique contemporaine. Et derrière, il y a Sylvain Lawrence à la basse qui jouait dans Butt Shakers, Calmos et Air Geisha and the Boops.
Voilà un trio que tu as découvert au fil de tes pérégrinations lyonnaises, c'est ça ?
Ouais, enfin, c'est vrai qu'il y a un aller-retour en ce moment de communication et même de déplacement entre Montpellier et Lyon. Enfin, je sais qu'il y a des gens vraiment très bien qui ont une véritable éthique musicale. En fait, entre guillemets, pour parler poliment, je pense qu'il y en a beaucoup qui en ont rien à branler en fait des stéréotypes et musicaux et du système, même si on est toujours un peu titillé entre les deux. Et donc voilà, il y a un nid là-bas, il y a un truc qui se passe. Et moi, je suis contente de les recevoir au Mouton Noir, alias le Black Sheep de Montpellier, ce vendredi avec Human Replacement Shop.
Voilà, et c'est pour célébrer la sortie de leur album qui s'appelle Focus, qui est sur le point de sortir. Donc ils sont demain à Tarbes au Celtic Pub, le 22 donc au Black Sheep à Montpellier. Ils seront au Raymond's Bar à Clermont-Ferrand le 27 si vous y êtes par là, à l'Alimentation Générale à Paris le 7 mars, et puis après ils partent à Strasbourg, à Gérardmer, à Lyon évidemment, pour un concert triomphant de fin de tournée qui aura lieu, on ne sait pas, c'est encore un secret. Donc renseignez-vous sur leurs différents sites, leur Facebook s'il y a que ça. Pour l'instant, il y a aussi xis.bandcamp.com où on peut écouter des extraits. D'ailleurs, je pense que c'est ce qu'on va faire.
Ouais, je refuse.
I refuse. Ah oui, j'aime bien ça. Ça fait un petit peu un petit passage un petit peu harmonique là, comme ça au milieu. On aurait dit du gong sous acide ou sous en fait.
Expérience.
Justement pas. Figure-toi.
Ouais, moi ça me fait beaucoup penser à un groupe, que je connais qui est produit par Cuneiform Music, West Side Music aux États-Unis, qui s'appelle Thinking Plague. Et j'avais jamais encore entendu un autre groupe qui ressemble à ça. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de féminin aussi dans ce rock. Et je trouve que c'est agréable parce que c'est pas du tout du cliché. Je pense que Jessica vient du jazz. Donc il y a des petites influences comme ça aussi.
Ça l'a vachement énervé. Le jazz.
Super énervée, et elle a beaucoup refusé par la suite.
Xis, c'est ce vendredi sur la scène de Le Black Sheep avec une première partie dont on va dire deux mots tout de même.
Oui, Human Replacement Shop. C'est un groupe qui a été créé par Maximiliano D'Ambrosio, qui est donc aussi le compositeur de Durmer, que tout Montpellier connaît. Et donc c'est un trio aussi, avec batterie, clavier et guitare. Voilà, donc c'est plutôt, je dirais, rock prog. C'est là, j'aurais rien à faire écouter parce qu'ils sont en train de préparer en fait un album. Donc je peux qu'encourager à aller taper Human, donc Human comme un humain mais sans le i, hein, comme en anglais. Replacement Shop sur internet. Il y a des vidéos qui circulent. Je vous propose juste un tout bébé texte, voilà, pour le décrire, parce que des fois je fais ça la nuit quand j'arrive pas à dormir. Finesse et puissance en eau d'autant qui ne passe plus, Human Replacement Shop est un trio instrumental en quête d'un retour aux sources des vrais bons débuts du rock prog. Je dis ça parce que je pense beaucoup du King Crimson, etc. J'ai pas été super fan de l'évolution du rock prog dans l'histoire par la suite. Entêtant et bien en marche, Human vous propose de découvrir l'autre humain qui est en vous. Celui qui n'a pas peur de noires envolées lyriques 70s, de magma sonore sur fond de noise, ni des tensions qu'elles engendrent parcourant tout le corps. On vous y contera d'étranges histoires sans un seul mot. Et vous ne saurez vous empêcher de siffler leur répétitive rengaine au moment du réveil ou du petit déjeuner au lendemain matin du concert. À la batterie, Ali Erol. Au clavier, Étienne, j'ai oublié son nom de famille, mais il joue dans Early Puppets à Montpellier. Guitare, Maximiliano D'Ambrosio, donc le bandoneon, et compositeur de Durmer ce vendredi.
Voilà, ce vendredi en première partie d'Ixis, Durmer qui sera aussi un petit peu à l'honneur pour le concert du 7 mars, puisque ce sera trois guitaristes sous l'appellation Guitar Zero, dont Le Hier, et deux guitaristes montpelliérains, dont Jaco de Durmer, qui se produiront le 7 mars.
Oui, toujours au Mouton Noir.
Toujours au Black Sheep. On a un extrait sonore là ou...
Alors, on n'a pas d'extrait Zero, non, sonore. Hein. Et voilà. Puis, alors, on n'a pas du tout d'extrait sonore pour l'instant.
Mais on en a un pour le concert du 1er mai.
Oui.
Et comme le temps tourne. Le 1er mai, peut-être dire un mot sur ces trois guitaristes qui feront un concert le 7 mars.
Eh bien, le troisième, en fait, il ne s'est pas encore révélé. Enfin, je ne sais pas encore.
D'accord, d'accord. Ils vont jouer ensemble ou l'un après l'autre?
Eh bien, j'aimerais bien, en fait. Ce qui se passe, c'est que au début, Le Hier devait venir. C'est un guitare solo, tatata. Je me suis dit, tiens, et tout. Ce serait cool pour une fois qu'on ait une soirée où on vient juste boire des verres en regardant un mec jouer à la guitare. Comme à la maison, un peu. Et du coup, j'ai proposé à Jaco, je peux même carrément dire que je l'ai forcé. Je pense que je l'ai un peu manipulé, mais je pense qu'il ne m'en veut pas non plus. Parce que j'ai souvent l'occasion de pouvoir l'entendre jouer plutôt en mode à la maison, pote, tu fais tes trucs, moi je joue de la guitare et tout ça. Et je pense que c'est quelqu'un qui a énormément de talent, qui compose aussi dans son coin, tout ça. Et que c'est important qu'il le fasse peut-être sur scène, qu'il nous fasse partager ça. Mmh.
Ce sera donc le 7 mars, toujours au Black Sheep. Le 1er mai, ce sera Schramm et ce sera toujours au Black Sheep.
Oui.
Et toujours Black Sheep.
Et toujours Lyon.
Et toujours Lyon. Schramm, un mot
Bien.
Bien.
Très bien.
Schramm.org, dirait-on.
Schramm, bah alors Schramm, qu'est-ce qu'on peut dire? Ah si, il y a un truc, il y a un petit texte que j'ai vu sur leur bandcamp qui n'était pas trop mal, que j'ai trouvé, ta-ta-ta-ta. Ah oui. Donc, quatuor à cordes, hanche, 88 touches et fût avec une prise au bout pour le brancher à l'électricité, né en 2008 à Lyon. Rock sans guitare, jazz à distorsion ou musique de chambre capitonnée à destination des adultes émotifs et des enfants sauvages. La musique de Schramm s'adresse plus au cœur qu'au crâne et ne s'interdit rien des évidences pop au bruitisme sauvage. Marqué par Jim Black, Soft Machine ou The Residents, il vole au jazz ce qu'il a de plus libre, au rock son énergie et à toutes sortes de musiques des leur folie pour livrer un son qui grouille, mute, avec des mélodies, des cris, des silences et du bizarre dedans.
Ils sortent leur premier album en vinyle et en CD. On peut les trouver sur schromb.org, C-H-R-O-M-B. Et ils ont un site assez étonnant avec des pages normales, hein, télévision, shop, presse, contact, lien, pro. Et ils ont une page Michel Sardou.
T'es allé voir ?
Ben, je suis en train, mais la connexion est un petit peu lente. C'est eux qu'on entend en musique de fond. Alors pourquoi Michel Sardou ? On va écouter cet extrait, puis on vous répond juste après. We'll be right back. Ça s'appelle le Schramm avec Org Fender Rhodes, emmené par Camille Drieux, qui joue de tous ses bidules et d'ailleurs l'un des principaux compositeurs de Schramm, qui n'est pas tout seul ce garçon, puisqu'il est accompagné d'Antoine Mermet au saxophone, alto et baryton, et à la voix, de Lucas Ekberg à la basse et de Guillaume Gestin à la batterie, donc en concert dans le cadre de la programmation de l'Asso Moria, pour laquelle Héloïse est avec nous dans les studios. En concert, ce sera le 1er mai, la fête du travail.
Oui, alors on attend une réponse d'un groupe qui s'appelle Maman Brigitte. Voilà, c'est des anciens membres du groupe encore de Lyon qui s'appelle Pan Pan Pan. Donc c'est un duo, j'ai jamais entendu, mais il est possible qu'ils débarquent avec eux et qu'ils fassent la première partie à suivre.
À suivre. Et puis on termine ce petit tour par le concert du 9 mai, une soirée qui sera faite en partenariat avec le collectif Koa, un collectif assez actif sur Montpellier depuis bientôt 10 ans, et qui tourne autour des musiques improvisées, du jazz, ils ont un big band aussi, de choses.
Ouais, c'est plutôt une esthétique quand même très jazz. Après, dans le cadre de leur festival, des rencontres Koa, ils avaient envie de créer quelque chose de plus expérimental, même si pour, toujours c'est des mots qui veulent rien dire. Donc, ils avaient prévu de programmer Ayane Coco, et là, on s'est dit bon, super, on va voir, on va essayer de décliner le mot expé sous plusieurs formes. Donc, d'abord avec Ayane Coco que je ne connais peu, mais c'est quand même quelque chose qui m'avait pensé à de la musique électroacoustique avec une dimension de spatialisation du son. Voilà, ça fait un petit peu artisanat sonore. C'est entre, il y a du mélange d'informatique, de musique donc informatique et de musique, on va dire, acoustique. Voilà. Ensuite, on ne pouvait pas faire autrement que de refaire jouer Horse Give Birth to Fly.
Voilà, formation en duo avec des percussions tout droit sorties d'un chantier.
Oui.
Et puis une guitare, si je ne m'abuse.
Ouais, il y a de la voix aussi parfois. Enfin, c'est une musique eux ils l'appellent ritual noise, et je trouve que c'est bien trouvé. Ça leur va très très bien. Et voilà, donc on les avait déjà fait jouer l'année dernière, c'était carrément extra, et donc voilà, bon, on va reprendre ça, et puis on vous a ramené aussi un petit morceau, il me semble.
Et puis il y a One Lickless aussi.
Alors One Lickless, c'est un groupe de Paris, c'est un duo, c'est un mélange entre plein de trucs aussi, du blues, de la noise, enfin voilà, donc moi j'avais carrément flashé dessus, humainement aussi d'ailleurs, quand je les ai vus passer à l'Up and Down tous les deux. C'est d'ailleurs pour ma part, après c'est que mon avis, un des rares groupes qui a fait un son hyper propre, hyper beau en fait dans celui-là, qui est pas forcément évident en fait à sonoriser, c'est-à-dire que c'est souvent approprié à beaucoup de bruit, beaucoup de... Donc voilà, et donc on a décidé de les faire revenir, et c'est pareil, je crois qu'il y aura un petit morceau en écoute.
Et là on écoute en fait Horse Gives Birth to Fly, c'est bien ça?
Oui.
Et on va se quitter avec eux, car le temps est passé, ma bonne amie. On rappelle qu'on retrouve toutes ces informations évidemment sur http://lassomoria.wordpress.com, l'asso, L-A-2-S-A-U-T, M-O-R-I-A. Et Louise, merci beaucoup. Et
merci.
Puis à très bientôt sur les ondes de Divergence ou Black Sheep.
Oui.
Salut.
Salut.
Moi, Buffle Bleu, je vous parle et je vous dis, Hugues, que la paix soit avec vous. C'était Horse Gives Birth to Fly. Ce sera donc en concert le 9 mai au Black Sheep. Et puis, pour vous dire pourquoi Schramm, ils ont une page intitulée Michel Sardou sur leur site. Eh bien, parce que d'authentiques faux autographes de Michel Sardou étaient offerts aux affectueux souscripteurs de leur premier album. Donc, la page intitulée Drichel Sardou compte tous ces dessins assez drôles, voire consternants, voire mal écrits, voire bien écrits. Enfin, c'est assez amusant. Chose qui vous attend ce jeudi, c'est une visite de l'Agora de la danse, une visite des dessous de l'Agora qui se terminera ce 21 février par la projection de Montpellier Zigzag, un documentaire retraçant 30 ans d'histoire du festival Montpellier Danse à partir d'archives commentées par des chorégraphes. Gérard Viol est allé rencontrer la guide.
Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Je me retrouve donc à l'Office central du tourisme de Montpellier, où j'ai la chance d'être auprès de Christine, une guide qui va vous expliquer tout sur les prochaines visites, notamment celles de autour de l'Agora et de Montpellier Danse. Christine, bonjour.
Bonjour.
Donc, j'expliquais un peu le but de ma visite, c'est aussi de faire savoir que l'Office du tourisme n'est pas seulement un lieu où on peut aller se renseigner pour la restauration, pour l'hébergement, pour l'hôtellerie, pour les activités autres. Vous avez aussi des spécificités qui sont les vôtres, qui sont des visites organisées.
Oui, tout à fait. On essaye de faire d'ouvrir des portes et de faire découvrir un certain nombre de lieux, tant aux visiteurs de passage que même parfois aux habitants de la ville et aux nouveaux Montpellierains en particulier.
Et pourquoi l'Agora ?
Alors, l'Agora, c'est vraiment un lieu qui, déjà, est immense en tant qu'édifice, que bâtiment, que l'on voit très bien quand on passe par le tramway sur le boulevard Louis-Blanc. Et c'est surtout une des spécificités de Montpellier, d'avoir ce festival avec cette danse, si vous voulez, ce focus sur la danse contemporaine qui est un petit peu unique dans notre ville.
Oui, ça, nous sommes déjà partenaires avec Montpellier Danse. Alors, on va bien rester sur la visite du point de vue architectural et historique.
Voilà, hein, tout à fait. Toute la partie danse contemporaine, le festival, toutes les activités qui s'y réfèrent sont effectivement gérées par les deux structures qui sont abritées dans cette agora de la danse.
Oui, on va quand même rappeler rapidement, parce qu'il y a à la fois Montpellier Danse Festival, mais tout au cours de l'année, il y a aussi des prestations qui s'y déroulent, parfois lundi, parfois le mardi, comme la semaine prochaine. Et ceci, donc, dans un domaine qu'on pourrait presque dire autonome par rapport au festival qui, lui, est la référence mondiale du festival, je crois.
Voilà, c'est-à-dire qu'effectivement, il se passe des activités toute l'année, hein, en plus de la programmation du festival. Montpellier Danse d'un côté, et puis il y a le Centre National chorégraphique de Montpellier Languedoc-Roussillon de l'autre côté. Donc ces deux structures à part entière nous accueillent pour qu'on puisse faire découvrir le bâtiment qu'ils occupent.
On va revenir à votre travail, je vais l'appeler ainsi, c'est donc faire découvrir aux gens de passage, comme vous le disiez si bien, et aux gens de Montpellier, ce qu'est en fait l'historique de l'Agora.
Voilà. Alors là, on est tout à côté des anciennes fortifications, hein, de cette commune clôture qui entourait notre écusson, et sur un territoire qui va évoluer petit à petit, mais toujours par rapport à l'implantation des communautés religieuses. Hein, on est après cette période de la réforme qui a beaucoup secoué l'Europe, et donc arrive la contre-réforme, on installe des nouvelles congrégations religieuses, et donc là, on va avoir d'abord les visitandines qui vont ensuite déménager de l'autre côté à l'actuelle faculté de droit, et puis donc les ursulines qui vont être implantées là dans un bâtiment qui n'a pas du tout l'aspect qu'il a aujourd'hui, qui était beaucoup plus petit, pour donner de l'éducation aux jeunes filles plutôt de bonne famille. Il y a une autre congrégation qui s'occupe des jeunes filles de mauvaise vie de l'autre côté de la rue Sainte-Ursule, du côté de l'îlot du refuge. Alors il y a eu plusieurs personnages célèbre, mais une en particulier qui ressort, c'est Marie Lafarge. Donc effectivement, durant la visite, on explique un petit peu plus en détail qu'elle a été accusée d'avoir empoisonné son époux. Elle était quand même de descendance importante, quasiment noble, et donc ce qui lui a permis d'avoir un traitement un petit peu de faveur. Donc on explique, voilà, ce genre de choses, mais on voit aussi les cellules qui existent encore dans ce magnifique théâtre à ciel ouvert, dans lequel on peut aussi assister à des représentations de Montpellier Danse, et on voit même un des anciens cachots, par exemple. Hein, donc voilà, il y a ce côté vraiment de l'enfermement, mais avec des choses qu'on n'imagine pas derrière ces murs épais qu'il pouvait s'y passer depuis la création de ce lieu.
Eh bien voilà, on n'est pas au château d'If, bien loin, mais quand même, on se rapproche un peu de l'historique de ces prisons qui ont fait la légende de certaines villes et de certaines époques même.
Oui. C'est ça, avec des conditions qui étaient quand même très particulières. On n'avait pas la même espérance de vie qu'aujourd'hui. Par exemple, il y avait des conditions de salubrité qui étaient quand même aussi parfois sujet à caution. Hein. Donc voilà, ça fait partie des choses que l'on voilà, que l'on touche du doigt selon les visites prévues. C'est un petit peu à partir de ce développement au début de la première moitié du XVIIe siècle que l'on va petit à petit développer le bâtiment et en arriver à de toute façon un lieu toujours de rétention, un lieu clos. Hein, puisque on parle d'abord de la communauté religieuse, ensuite, malheureusement, ce lieu va être transformé en prison. En prison, alors, on parle de prison des femmes. Au début, ça a été une prison mixte, mais ensuite, on a essayé de mettre un petit peu d'ordre. On a essayé, hein, je dis bien, parce qu'il y a eu quand même aussi, mais ça c'est des petites anecdotes ou les détails de l'histoire que l'on raconte lors de cette visite, il y a eu quand même des petits soucis à l'époque où il n'y avait que des gardiens qui géraient que des femmes. Hein, donc prison de femmes. Et puis on a donc cette évolution, d'ailleurs certains Montpelliérains ont dû connaître cette époque-là, toujours un lieu d'enfermement, puisque ou presque d'une certaine façon, puisque ça deviendra une caserne dans les années 30, la caserne Grosse City, que certains Montpelliérains ont peut-être connu, jusqu'à ce que le lieu soit laissé un petit peu à l'abandon. On se demandait, c'est tellement énorme à gérer, il était en mauvais état, et donc il y a eu une décision de certains Georges Frêche, que les Montpelliérains connaissent aussi, et de décider d'en faire. Alors il y avait plusieurs projets, et finalement on a abouti à cette Agora, Cité Internationale de la Danse, qui permet à Montpellier d'avoir vraiment une sorte d'aura, hein, en ce qui concerne la danse contemporaine dans le monde entier, on peut le dire.
Oui, ça on peut le dire, mais vous en parlez tellement brio que vraiment vous allez faire venir tout le monde, parce que moi qui suis de Montpellierin, j'ignorais presque tout ça. Je raccordais l'ancien Montpellier, justement, on va dire d'un côté à la tour de la Babote,
voilà.
Et également à l'ancienne porte qui est en bas de la rue de l'Université, qui étaient donc les fortifications initiales que je connais moi de Montpellier. Mais au travers de vous, on voit que ça va bien au-delà de ça. Et je pense que tous nos auditeurs seront ravis de pouvoir venir écouter avec vous cette conférence qui va durer, c'est une conférence par cours, on va dire, qui va un peu durer une heure et quart.
Voilà. Alors en fait, on est en binôme avec Sophie Luchère, qui est donc qui travaille sur Montpellier Danse, qui nous ouvre un petit peu toutes les portes. Donc ça permet de voir non seulement le bâtiment historique, l'ancienne chapelle, la partie de cette rotonde magnifique qui est la spécificité de ce qui deviendra prison de femmes, puisque ce n'est construit qu'au début du 19e siècle, et puis toute la partie contemporaine, qui est effectivement développée avec des studios de danse, des artistes à résidence. Et c'est l'intérêt de cette visite, c'est d'avoir non seulement la partie historique, architecturale, mais ensuite, on a donc, selon les jours, donc il faut regarder le programme de près, soit une projection d'un film, donc c'est ce qui va avoir lieu le jeudi 21 février, donc 17h30 le rendez-vous pour la visite guidée, 19h donc la projection du film Zigzag, qui permet justement de faire un petit peu l'historique des 30 ans d'existence du Festival Montpellier Danse, avec des interviews de chorégraphes. Et la fois suivante, donc ça sera le mardi 12 mars, on aura donc toujours à 17h30 la visite guidée, et ensuite donc on aura dans un des studios, le studio Cunningham, qui est flambant neuf quasiment, qui fait partie de la dernière tranche de travaux qui a été réalisée. On aura donc cette fois la possibilité de découvrir une chorégraphe qui est à résidence à l'Agora, et qui présente donc un de ses travaux, hein, donc portes ouvertes en quelque sorte. Donc c'est Yalda Younes, qui est en fait une artiste libanaise connue, qui fait un travail sur le flamenco, sa vision à elle du flamenco. Ça va être vraiment, je pense, passionnant d'avoir le côté historique et le côté complètement contemporain dans une seule opération, dans une seule rencontre.
Donc Christine, si je me résume, on peut dire qu'il y aura à la fois les gens intéressés par le côté historique et architectural du lieu, et également dans les gens qui sont intéressés par la danse contemporaine. Il n'y a qu'une chose qu'on n'a pas précisé en dehors des dates, c'est le lieu de rendez-vous, c'est directement devant l'Agora.
Alors directement devant l'Agora, en règle générale, on passe par la rue Sainte-Ursule, hein, la petite rue qui est parallèle au boulevard Louis-Blanc. Par contre, il faut s'inscrire impérativement. Donc, vous pouvez vous inscrire soit par téléphone 04 67 60 60 60 à l'office de tourisme, en passant à l'office de tourisme, ou bien même par internet, hein, puisque on a le site resamontpellier.fr sur lequel vous pouvez tout à fait prendre vos places. On peut parler de tarifs peut-être, comme ça donnera une idée à nos auditeurs. Donc, il est question de 11,50 € pour le tarif plein, et ça permet voilà d'avoir la totalité de cet événement qui est vraiment comme d'autres visites que nous avons mises en place, une découverte que l'on espère la plus totale de ce lieu tellement fermé pendant si longtemps.
Bien, vous en parlez avec tellement de passion qu'il ne faut qu'un autre qu'il y aura beaucoup de monde pour les deux prochaines visites que vous allez donc animer. Quant à moi, il me reste à vous remercier de votre accueil, du temps que vous nous avez consacré, et sachez que nous ferons tout pour qu'il y ait beaucoup de monde à vos visites. Christine, merci beaucoup, et encore merci, et au revoir.
Merci Gérard, à bientôt.
À très bientôt.
Voilà, on remercie Gérard Viol pour cette interview. Si vous n'avez pas besoin de danser, you don't need a dance, eh bien vous danserez quand même sur cette musique de Breakestra.
Oh! Oh yeah, come on with it now, let me see what you got. Give it to me. Show no funk yet. Let me tell you something. Time to let it all go. Yeah. Change the channel and clear the air. Time to get your ass up out that chair. The time is right and you right on time. And all you gotta do is just cut that line.
Les excellents Breakestra avec Don't Need a Dance dans cette auberge espagnole dans laquelle on va à présent parler des boutographies avec Arnaud Laroche. Bonjour Arnaud.
Bonjour.
Alors ça va démarrer avec un vernissage hors les murs ce vendredi 1er mars et puis après c'est parti, on va détailler tout ce programme, peut-être dire un mot avant de parler du programme des boutographies 2013, du projet que vous avez sur un projet de crowdfunding autour du projet Jeune et Talentueux. Vous levez des fonds avec Kiss Kiss Bang Bang dont on avait reçu un des CEO ici à Divergence qui était venu aussi participer à des réflexions autour de ça à Montpellier, notamment avec Illusion et Macadam, etc. L'objectif, c'est de financer de financer quoi, finalement?
Alors, en fait, pour l'instant, tout va bien sur les boutographies, sauf une chose, ce projet. Non, c'est l'idée de départ, effectivement, c'était de trouver des fonds pour aider les photographes dans la production de leurs œuvres. Et c'était aussi, pour nous, un moyen j'ai envie de dire de tester un peu ce type de financement, de recherche de financement. Il s'est avéré que c'est un projet où il faut vraiment
être sur la brèche 24 heures,
voilà, 80% de son temps dessus, ce qui n'était pas possible pour nous cette année. Et on a eu beaucoup de mal à le faire démarrer. Et d'ailleurs, il a toujours pas décollé, quoi. Je crois qu'on a atteint les 1% du.
Ouais, voilà, on est à 125 euros collectés pour un objectif de 10 000. Ouais. Donc effectivement,
du projet le plus mauvais.
Mais c'est vrai qu'il nous l'avait dit, Vincent Ricordo, quand il était venu, que effectivement la condition pour la réussite d'une campagne de crowdfunding, c'est effectivement d'avoir quelqu'un qui va animer toute la journée sur les réseaux sociaux, sur les différents outils de communication très à la mode en ce moment, justement pour galvaniser un petit peu les troupes, sans quoi effectivement ça peut ne pas marcher ou ça ne peut pas marcher selon les fois. En tout cas, ce n'est que partie remise, j'imagine, parce que l'idée, finalement, peu importe si la campagne de financement marche cette année ou pas cette année, l'idée, c'est de réunir des fonds pour accompagner des jeunes photographes, pour les aider à exposer, pour...
Oui, ce type de projet est plutôt pour aider justement les jeunes photographes. C'est ce qu'on fait depuis 13 ans maintenant. Le prochain projet, si on en met un, ce sera peut-être pas forcément sur les boutographies parce qu'on a d'autres choses dans nos cartons. Mais disons que c'est à réfléchir, quoi. Parce que vraiment, ça demande énormément de travail et on se demande même quelque part si c'est pas plus simple de se tourner plutôt vers du partenariat, de travailler là-dessus plutôt. Parce que finalement, on est en contact avec personne, tout se passe par Internet, c'est assez particulier. Il y a des gens qui nous contactent, on ne les a jamais vus, on ne sait pas qui c'est. Donc c'est un peu bizarre.
Alors, Hors les murs, ce sera ce vendredi 1er mars à 18h à la galerie Annie Gabrielli. Ça se trouve 33 avenue Francis Delmas, sur l'avenue de Nîmes. Un premier vernissage, puisque le lendemain, à 11h, il y aura le vernissage officiel des boutographies. Qu'est-ce qui va se passer ce vendredi 1er mars à 18h?
Alors, en fait, dans la section Hors les murs, il y a 4 lieux d'exposition, dont évidemment Annie Gabrielli, il y a La Fenêtre, Transit et À la Baraque. Ils ont chacun leur vernissage. On s'était arrangé avec eux à ce que les vernissages n'empiètent pas, on va dire, sur les activités du soir qu'il y a sur les boutographies, comme les conférences ou les rencontres avec les photographes. Annie a eu du mal à positionner en fait son vernissage, donc en fait on l'a mis le vendredi. En fait, c'était l'année dernière, c'était le vendredi aussi, je crois. Donc voilà, elle fait un peu, on va dire, l'ouverture du Hors les murs.
Avec Libre et Sauvage de Shannon Guérico.
Exactement.
Donc une expo qui fait partie des boutographies, qui sera à voir donc, à la galerie Annie Gabrielli pendant toute la durée des boutographies.
Oui, c'est cette année, elle a mis les dates sur les mêmes que les boutographies.
Peut-être dire un mot sur les photos de Shannon Guérico qu'on pourra voir donc, à partir de vendredi, 1er mars. Allez voir sur le site.
Voilà, il faut aller voir sur le site. Non, c'est une surprise, donc on ne peut pas... Moi-même, je connais que quelques images, mais je ne connais pas l'intégralité de l'expo.
À 11h, samedi 2 mars, ce sera donc le vernissage officiel des boutographies 2013 au pavillon populaire sur l'esplanade Charles de Gaulle. Toujours le samedi 2 mars, il y aura la première soirée de remise des prix, puisque c'est vrai que les boutographies ont aussi cette vocation à récompenser aussi les travaux de photographes.
Comme tout festival, j'ai envie de dire, on est assez bien placé pour les remerciements, puisqu'on est bien aidé par la ville de Montpellier sur le prix du jury. Et effectivement, après, il y a deux autres prix qui sont le prix échange qu'on fait avec le Festival Photo Agendo à Rome. Et puis,
Il a un trou.
Oui, j'ai un trou. Après, c'est un coup de cœur. C'est le coup de cœur réponse photo. Voilà, chercher un prix.
Voilà, donc ça sera à 18h30, non loin du lieu du vernissage qui aura lieu à 11h le samedi 2 mars, puisque là ce sera à la Maison des Relations Internationales, juste au bout, à côté du Quorum. Et puis toujours le samedi 2 mars, un deuxième donc vernissage hors les murs, avec l'espace Transit rue Ranchin à Montpellier, autour des travaux de David Barnes King, Tide. Un nom super long.
Ouais. Alors c'est un petit peu pour ça aussi, hein, j'ai pas beaucoup d'infos sur l'exposition. En revanche, je sais quelque chose, c'est que ce photographe-là a fait l'université du Pays de Galles de Newport, qui est en fait, il s'est trouvé, hein, c'est le hasard, c'est l'école européenne qu'on invite maintenant depuis 3 ans. Donc c'est autour de cette école-là de faire une projection pendant toutes les boutographies. Et il se trouve aussi que c'est l'école qu'a fait notre président de l'association, Peter Vass. Et il y a aussi une photographe de transit, Alexandra, je crois, qui a fait cette école. Donc c'est assez rigolo de se retrouver par le hasard à être plusieurs, à avoir... être passé par cette école.
Et puis, justement, il y a aussi une dimension européenne aux boutographies qui s'est développée ces dernières années, histoire de voir plus grand que les frontières hexagonales.
On essaye toujours d'aller le plus loin possible. Après, c'est vrai qu'il y a des petites barrières, on va dire, de communication entre les différentes langues en Europe. Ça se développe petit à petit. C'est surtout les photographes, finalement, qui font le bouche à oreille et qui permettent justement de connaître d'autres photographes d'ailleurs. Le projet des écoles européennes, c'est aussi pour ça qu'on l'a mis en place. C'était pour justement être en contact avec les écoles pour qu'ils en parlent à leurs élèves.
Le dimanche 3 mars à 11h à la galerie Saint-Ravi, ce sera un vernissage brunch autour de l'exposition Cœur de Femme en présence de la photographe Céline Anaya Gauthier. Toujours le 3 mars, dimanche de 15 à 19h, lecture de portfolio avec des présentations de books photos à des professionnels de l'image. Ça, ce sera à la salle Pétrarque. Le lundi 4 mars, toujours des lectures de portfolio à l'espace Martin Luther King, boulevard Louis Blanc. Et puis toujours le 4 mars à 18h30, une rencontre projection. I Dilettanti présente le programme Luca Giacosa. Le débat est animé par Michel Grollet, président de l'association Hans Demes, directeur de la maison Edouard Heidelberg, qui aura la photographe Caroline Klüppel, et ça sera à la Maison des Relations Internationales. Tout plein de lieux, finalement, pour les boutographies. Il y a combien de lieux en tout? Est-ce que tu le sais de mémoire?
De tête, je crois qu'il y en a 13, si on compte vraiment avec les lectures et tout ça. Je voulais juste dire un tout petit mot là, oui. Concernant les rencontres avec les photographes, avec les deux associations, I Dilettanti et la Maison de Heidelberg. C'est un projet qu'on a mis en place l'année dernière avec I Dilettanti. L'idée étant de faire des rencontres dans la langue du photographe pour évidemment les adhérents de cette association qui aime la langue italienne. Et puis on a rencontré la Maison de Heidelberg cette année. Et on leur a proposé aussi, puisqu'on avait un photographe allemand cette année. Donc s'il y a d'autres associations sur Montpellier qui parlent des langues étrangères, on serait ravis de pouvoir travailler avec eux pour l'année prochaine.
J'espère que le message a bien été entendu. Le mardi 5, il y aura une rencontre Sorams dans le cadre des boutographies avec les photographes auteurs Céline Anaya Gauthier, Georges Vercheval, Gilles Picarel, ainsi que le collectif Transit sur le thème de l'édition photographique. Ça sera à la Maison des Relations Internationales. Et puis une deuxième rencontre Sorams le lendemain avec Georges Vercheval et Christian Gattinoni sur le thème de la critique photographique à la collection. La première sur l'édition l'édition photographique, évidemment, tous les métiers de l'édition en ce moment sont un petit peu en ébullition pour trouver de nouvelles recettes, de nouveaux moyens de se diffuser, etc., entre le papier, le numérique, etc. J'imagine que oui, c'est un thème qui préoccupe pas mal le monde de la photo aussi.
Alors, le livre est important parce que ça reste un support pour les photographes qui est assez difficile à avoir. Mmh. C'est vrai qu'on peut aujourd'hui faire chacun son livre. Par exemple, les livres d'artistes se mettent de plus en plus en place. Mais des livres qui sont soutenus par des gros éditeurs, c'est assez compliqué parce qu'évidemment, il faut avoir des travaux conséquents. Il faut avoir un peu de bagage derrière soi pour pouvoir attirer un éditeur. Mmh. Si on a mis ces conférences en place, c'est grâce aussi à Soramps qui nous en a parlé il y a 2-3 ans. Et puis, on a pensé que c'était quelque chose qui était pas mal parce que on a, par exemple, pour cette année, on avait juste Céline Anaïa Gauthier qui avait un livre qui avait été édité par La Martinière. Et puis, c'est tout dans toute la sélection. Parce que comme ce sont des jeunes photographes, il y en a beaucoup qui n'ont pas encore de publication. Mais on a pu découvrir que Gilles Picarel, en fait, a fait un livre d'artiste que Transit, cette année, donc ce sont des anciens des boutographies, puisqu'ils sont venus en 2003 faire leur première exposition, ont sorti un livre cette année pour leurs 10 ans, donc c'est une autoproduction, donc un autre système de financement. Et puis Georges Vercheval, qui est en fait le président du jury cette année, qui est surtout le fondateur du musée de Charleroi en Belgique. Et on finira donc cette première soirée avec son livre, qui est un livre qui a été édité par le musée de Charleroi sur la collection du musée. Voilà, comme ça fera un lien avec la conférence du lendemain, qui est une conférence qui est très importante pour nous parce que on a mis en place depuis 2 ans un marché photo qui fonctionne bien. Il y a pas mal de gens qui viennent acheter et on a pensé que ce serait bien de pouvoir expliquer un peu ce que c'est qu'une collection photographique, comment on y vient, quels sont les choix, comment on construit en fait une collection. Il suffit pas simplement d'acheter des œuvres à droite à gauche pour que ça fasse
Que ce soit une collection
dynamique. Oui, voilà, que ce soit quelque chose qui se tienne. Quoi.
Voilà, amis aux amateurs de photos, ils apprendront comment bien faire une collection. Donc, ça sera le mercredi 6 mars à 18h30 à la galerie Saint-Ravi. Et puis le 7, il y aura un vernissage hors les murs. Ce sera à La Fenêtre, rue Frédéric Pesson, autour des photos de Christophe Taylor et de son expo La Mémoire de l'Oubli. Le vendredi 8 mars, vernissage hors les murs aussi à la Baraque, 10 rue de la Petite Loge, avec La Mère et l'Enfant par Carole Le Tanneur. Et puis ouverture en nocturne au pavillon populaire le samedi 9 mars. On va faire une toute petite pause.
Oui. Et le jeudi 14.
Oui, voilà, tout à fait. Ça, c'est pour les expos. Et puis, on va faire une toute petite pause musicale pour respirer un petit peu tout de même avec Émilie Loiseau, évidemment, la photographie.
Sous la pluie, infidèle, photo d'elle et de lui si belle. Il y avait aussi un petit chat gris bleu, on le voit un peu. Je me noie quand je parle d'elle dans les eaux du ciel. T'as pas vu mes ailes. Je pense qu'on est dimanche et elle penche et elle penche dans ma drôle d'histoire. Ça dépend des soirs. Le petit chat est mort ou alors il dort. J'ai plus de mémoire et ça va te faire rire. J'oublie de souffrir.
Émilie Loiseau, la photographie, pour illustrer eh bien, ces boutographies 2013, dans le cadre desquelles les lundis 11, mardi 12 et mercredi 13 mars à 19h30 à l'espace Le Mur Rouge, rue Joachim Colbert, au numéro 9, si vous voulez tout savoir. Ce seront des projections Arte Action Culturelle, une collection documentaire proposée par Luciano Rigolini. Ce sont des 26 minutes, il y en a tout un paquet.
Alors c'est la nouvelle production en fait d'Arte, les nouveaux films qui sortent. Ils avaient sorti il y a pas mal d'années une série qui s'appelait Planche Contact, je crois. Mm-hmm. Contact.
Ou Contact, voilà, tout court.
Contact tout court. Et là en fait voilà, c'est une nouvelle série qui lance, donc on en présentera 3 cette année et j'espère d'autres l'année prochaine.
Et puis le samedi 16 mars aura lieu la soirée de clôture avec la remise du prix du public 2013, la remise du coup de cœur Arte Action Culturelle et des projections proposées par la galerie à la baraque, musique toute la nuit. Donc voilà, ça se passera au bar Esplat Concept sur l'esplanade Charles de Gaulle face au pavillon populaire. L'entrée se trouve 2 rue des Augustins et évidemment c'est sur boutographies.com qu'on peut retrouver tous les détails de cette programmation.
Exactement.
Avons-nous tout dit ?
Oui.
Eh bien, voilà. Merci Arnaud d'être venu nous parler de cette édition 2013 des boutographies qui, je le rappelle, démarre eh bien, en avant-première, en quelque sorte, le vendredi 1er mars à 18h à la galerie Annie Grabelli, 33 avenue Francis Delmas. Le vernissage officiel, c'est le lendemain à 11h, le samedi 2 au pavillon populaire. On se quitte avec eh bien, Pictures This de 40 Winks en remerciant Bruno Bertrand d'avoir réalisé cette émission. Gilles Goulgier vous salue bien, l'auberge espagnole et production Divergence FM qui vous souhaite une bonne nuit.